un podcast France Culture.
Dans l'œuvre d'un réalisateur né 3 semaines après la capitulation de l'Allemagne, dont la caméra nous emmène dans un pays en ruine, obsédé par la réussite économique. Ses héroïnes s'appellent Lola, Maria Braun ou Veronica Voss, et leur trajectoire révèle les tensions entre les espoirs d'ascension sociale après la guerre et le rejet de l'impérialisme américain et du capitalisme. C'est l'économie selon Rainer Werner Fassbinder qui va nous intéresser jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Et nous prenons la direction de l'Allemagne de l'Ouest dans les années 50 en compagnie d'Alban Lefranc, romancier, traducteur, auteur de cet ouvrage, Fassbinder, la mort en fanfare, paru aux éditions Rivage. Également avec nous en duplex de Strasbourg, Emmanuel Droit, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg et directeur adjoint de l'unité de recherche LINCS à l'Université de Strasbourg. Une émission préparée aujourd'hui par Bruno Barada, Aliette Ovine, Diane Devancet, Mariam Ibrahim et Emma Taifer.
Am Tag, als der Regen kam. Heiß erflieht auf die glühenden Felder, auf die durstigen Wälder, am Tag, als der Regen kam, lang ersehnt, heiß erflieht.
Emmanuel Droit et Alban Lefranc.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez reconnu Le jour où la pluie est venue, chanté par Rebecca Soukova, l'actrice qui incarne Lola dans le film de Fassbinder de 1980. Lola, une femme allemande. Alors, qui est Rainer Werner Fassbinder? Il y a un certain mystère autour de sa vie, Alban Lefranc.
Oui, un mystère du fait de sa productivité absolument démentielle, puisque c'est un cinéaste qui a fait 43 films en à peu près 15 ans. Donc, ce qui défie un peu toutes les lois de l'imagination et de la production même filmique en général. Mystère aussi, du fait de l'extrême brièveté de sa vie. Hein, c'est quelqu'un qui meurt à 37 ans.
Il est mort d'une overdose?
Overdose, oui, pas certainement pas voulu, hein, un mauvais mélange de médicaments, parce que c'est pas du tout un suicide, hein, certainement pas. Voilà, j'ai mentionné ces 43 films, mais il faut aussi imaginer qu'il met en scène des pièces de théâtre, qu'il en écrit, qu'il réalise plusieurs séries aussi pour la télévision allemande, qu'il est donc parfaitement inséré dans ce système de production, et c'est aussi une vie de scandale ou une vie qui a beaucoup choqué. C'est un homosexuel complètement assumé, déclaré, donc ça, plusieurs de ses amants meurent, donc c'est aussi quelqu'un qui occupe vraiment, malgré lui, la chronique un petit peu des faits divers dans la presse à scandale.
Il est originaire de Bavière, il est né dans une famille bourgeoise cultivée et sa passion pour le théâtre débute dès son plus jeune âge. Il regarde jusqu'à 3 films par jour quand il est petit, Alban Lefranc.
Oui, alors ce qu'il faut quand même souligner, effectivement, bien sûr, il naît dans une famille bourgeoise, si on veut, puisque son père est médecin et sa mère est traductrice. Par contre, il naît en 45, donc au milieu d'un effondrement général de toutes les structures existantes. Hein. Il faut vraiment imaginer une Allemagne vaincue, il faut imaginer la capitulation nazie, il faut imaginer que toutes ces structures dans lesquelles ont vécu 12 ans les Allemands s'effondrent, il faut imaginer la présence américaine, etc. Donc le fait massif, c'est quand même vraiment un pays complètement ravagé. Hein. Donc c'est vraiment là-dedans qu'il grandit, et la plupart de ses films vont effectivement traiter de ce refoulé nazi, puisqu'on va, en plus, on va très vite l'aborder. Précisément, l'Allemagne s'est tournée vers l'avenir avec le miracle économique et a mis sous le tapis tous ces cadavres, en fait, qui sur lesquels ont été construits les nouveaux immeubles. Quoi.
1945, c'est effectivement à la fois l'année de sa naissance et l'année où se déroule le mariage de Maria Braun, du moins le début du film. C'est un film qui sort en 1979. C'est l'un de ses films les plus célèbres. Qu'est-ce qu'on peut dire, Emmanuel Droit, vous qui êtes historien, spécialiste de l'Allemagne à cette époque, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état de l'Allemagne en 1945, comme le disait Alban Lefranc, c'est un pays qui est alors complètement en ruine.
Oui, c'est un pays complètement en ruine. C'est une société en fait qui est à la fois matériellement et moralement en ruine. matériellement en ruine parce que les grandes villes et les grands centres industriels ont été sous les tapis de bombes des bombardiers anglo-saxons à partir de 1943. Donc de grandes villes comme Hambourg, des plus petites villes comme Pforzheim par exemple, ont été partiellement détruites. Et puis c'est une société moralement détruite parce que dans le cadre de cette Seconde Guerre mondiale qui s'est radicalisée, la société allemande a jusqu'au bout lié son destin à celui d'Adolf Hitler. Et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est une société paria, sans État, puisque je vous rappelle que l'Allemagne en tant qu'État n'existe plus. C'est un pays qui est occupé par les puissances victorieuses de l'alliance anti-hitlérienne. Et donc c'est un pays à reconstruire à tous les niveaux.
Un pays à reconstruire dans lequel se retrouve donc Maria Braun, qui est donc cette héroïne qui, en l'absence de son mari, partie à la guerre, est obligée de s'en sortir seule et elle trouve les moyens de survivre, Alban Lefranc.
Oui, alors elle trouve les moyens de survivre par une série d'alliances avec des hommes, d'abord en séduisant ou en rencontrant en tout cas un GI américain. Et le trajet de Maria Braun, ils sont présentés comme une espèce d'allégorie comme ça de l'Allemagne, prête à tout pour regagner un petit peu de dignité ou regagner un petit peu de respectabilité plutôt. Bon, après c'est un trajet, enfin la grande force de ce film, c'est aussi de nous présenter des personnages profondément ambigus, profondément complexes. Ce sont aussi des personnages qui sont conscients de leurs contradictions, hein. Elle se présente comme la Mata Hari du miracle économique en disant qu'elle est l'alliée du capital le jour et l'alliée des classes laborieuses la nuit. Bon, c'est-à-dire qu'elle souligne cette espèce de contradiction totale et elle avance avec cette contradiction sans jamais réellement la résoudre. Et c'est au moment où finalement la respectabilité va être possible, à la toute fin du film, je résume très grossièrement, mais elle retrouve son mari, elle a acquis une maison, elle accède vraiment à la respectabilité absolue. Parallèlement à tout ça, en 1954, on entend à la radio que l'Allemagne est en train de gagner la Coupe du Monde. Et c'est à ce moment-là que, par mégarde ou non, elle fait exploser sa maison, puisqu'elle avait laissé le gaz allumé, elle s'allume une cigarette, la maison explose. Donc il y a une espèce de... C'est un film étrange, parce que pour l'avoir revu récemment, c'est un véritable jeu de massacre, en fait, hein, constamment. La présence hitlérienne, enfin la présence, les détails hitlériens ou les détails du passé hitlérien ressurgissent constamment. On se moque du grand-père qui dort constamment, y compris pendant les discours de Goebbels. Et ça, je pense que dans le cinéma de l'époque, c'est extrêmement rare, en fait, de montrer comment le nazisme avait véritablement imprégné la vie familiale, l'intimité la plus banale des gens. C'est une des grandes forces du film.
Maria Braun, qui est l'un de ces personnages féminins très forts du cinéma de Fassbinder, elle parvient à sauver l'entreprise de son patron, Karl Oswald. Écoutez.
Maria Braun, Sie haben sich um das Wohl der Firma verdient gemacht.
Maria Braun, vous avez rendu un grand service à l'entreprise.
Ja, los, Sengelberg, jetzt Sie.
Allez, Sackenberg, vous aussi. Je préférerais boire à la santé de l'entreprise dans 5 ans, si elle existe encore. Vous êtes un rasoir, Sackenberg. Vous êtes rabat-joie. Vous êtes le meilleur comptable, le directeur financier le plus consciencieux, mais vous n'avez pas un marque d'imagination, un Reichsmark. Ce n'est pas un reproche. Dans votre travail, l'imagination nuirait au business. Quelqu'un doit tenir les comptes, garantir les finances, sécuriser les crédits. Où en seriez-vous, vous et l'entreprise, sans Sackenberg? À jouer aux courses?
Où wären Sie, Herr Oswald, mit Ihrer Firma ohne Herrn Sackenberg? Beim Pferderennen?
Das haben Sie gut gesagt.
Bien dit, non, Sackenberg?
Ich möchte auf Frau Braun trinken. Mit Ihnen allein werden wir zwar beim Pferderennen.
J'aimerais porter un toast à Madame Braun. Avec elle seule, nous serions aux courses. Sans elle, nous serions au cimetière. Veuillez m'excuser, ça a été une longue journée. Et vous voulez calculer combien de temps il nous reste avant la faillite? Plus sérieusement, nous avons survécu à la guerre. Nous trois, nous survivrons à la paix. Alban Lefranc, qu'est-ce que cet extrait nous dit de ce personnage de Maria Brand, qui est une allégorie de l'Allemagne, nous disiez-vous?
En tout cas, qui peut être lu comme une allégorie, même s'il y a vraiment d'autres lectures possibles. Bah là, ce qui est assez amusant, c'est que, comme on l'entend avec la bande sonore, on est vraiment dans une ambiance très feutrée, tout semble se passer merveilleusement bien, alors que l'atrocité est vraiment très proche, elle va revenir très vite. On est dans un personnage qui a vraiment, qui le dit elle-même, on vit dans une époque où le sentiment n'a aucune place, qui a véritablement, qui s'est fermé à ses émotions simplement pour survivre. Et c'est encore une fois, c'est ça qui est assez passionnant, c'est que le film ne juge jamais aucun des personnages. C'est une vision plutôt très pessimiste, à la différence de Lola, mais chacun des personnages est constamment pris dans des choix, dans des enfermé aussi dans des contradictions et doit avancer malgré tout. Donc elle, pour survivre simplement, elle est obligée de faire preuve d'un certain cynisme. Là où il y a une autre lecture possible, c'est ça qui est assez passionnant dans le film, c'est que elle construit toute cette vie, toute cette respectabilité pour l'offrir à son mari. C'est ça qui est assez génial en fait. Donc il y a aussi vraiment une logique de don, mais même de don contre don, comme pouvait en parler Marcel Mauss, qui n'a absolument plus rien à voir ou qui échappe à une logique du contrat strictement capitaliste. C'est assez amusant, ça.
Cette période d'après-guerre, c'est une période de très forte croissance économique pour l'Allemagne de l'Ouest. Il faut dire que les centres-villes ont été détruits, on l'a rappelé, Emmanuel Droit, mais ce n'était pas le cas de l'appareil productif. C'est ce qui permet à l'Allemagne de se relever rapidement.
Oui, c'est l'un des paradoxes de cette fin de la Seconde Guerre mondiale. On a évidemment des villes en ruines habitées par cette société des ruines, essentiellement composée de femmes, d'enfants et de vieillards, hein, puisque je vous rappelle que les hommes sont soit morts au front, soit prisonniers dans des camps, soit en Occident ou pire en Union soviétique. Et la reconstruction, elle est liée en partie à la non-application à la fin de la Seconde Guerre mondiale du célèbre décret Néron de mars 1945, puisque Hitler, sentant évidemment la défaite approcher, voulait entraîner dans la catastrophe l'intégralité de la population allemande et faire détruire l'ensemble des infrastructures industrielles sur le territoire. Et Albert Speer, qui avait alors les pleins pouvoirs sur la sphère économique, n'appliqua pas en fait le décret Néron. Et les bombardements alliés n'avaient pas endommagé l'appareil industriel. Donc, en fait, avec le soutien économique et financier américain, symbolisé par le plan Marshall, l'Allemagne de l'Ouest va en effet rebondir à partir du début des années 50 très rapidement, en s'appuyant sur ces grands secteurs qui avaient fait de l'Allemagne une grande puissance mondiale à la fin du 19e siècle, les machines-outils, la sidérurgie, la chimie, l'industrie lourde, les charbonnages, tout cela allié à des compétences et à des ressources humaines très qualifiées, s'appuyant sur un système d'apprentissage efficace, bah vous avez à peu près tous les ingrédients qui expliquent ce qui est resté dans l'histoire comme le miracle économique allemand, même si le ministre de l'économie de l'époque, Ludwig Erhard, détestait cette formule.
Pourquoi ?
Parce que pour lui, il n'y avait pas de miracle économique, il y avait simplement une société ouest-allemande mobilisée alors de manière très 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 rationnelle dans la reconstruction et la logique d'une forme de prospérité matérielle.
Donc il y a un boom économique très important, et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une méfiance à l'égard du système capitaliste, Emmanuel Droit, système que beaucoup d'Allemands rendent responsable de la crise des années 1920?
Alors c'est sûr que au sortir de la Seconde Guerre mondiale, vous avez alors à l'échelle planétaire, c'est pas une spécificité de l'Allemagne, un énorme besoin de justice sociale. Symbolisé d'ailleurs par le nouvel ordre international. Vous avez des grands textes internationaux comme le texte de la conférence de Philadelphie en mai 1944 qui plaide pour un monde plus juste sur le plan social, pour tirer les leçons du capitalisme financier sauvage qui aurait conduit à la catastrophe de 1929 et donc indirectement à la Seconde Guerre mondiale. Et en Allemagne de l'Ouest, vous avez des forces de gauche et notamment un parti communiste qui, même si électoralement les résultats sont pas au rendez-vous, il est présent dans la société ouest-allemande. Et vous avez de l'autre côté, dans ce qui va être la future RDA à partir de 1949, un autre modèle, plus ou moins idéalisé, plus ou moins bien connu, qui est le modèle communiste, le modèle de la planification, qui est un modèle alternatif au capitalisme et qui, au moins à cette époque et à peu près jusqu'à la fin des années 50, est jugé comme une alternative crédible et sérieuse au capitalisme de type occidental.
Et justement, c'est une période où l'Allemagne crée un modèle économique spécifique, un moment où l'Allemagne de l'Ouest naît en 1949.
Pour les zones occidentales aussi, l'avenir se précise et Bonn a pavoisé à l'occasion de la proclamation de la nouvelle constitution fédérale adoptée par les représentants des Länder, le docteur Adenauer, le professeur Wolleb pour le pays de Bade, le docteur Reuter pour Berlin-Ouest et le président Müller pour le Württemberg ont apposé leur signature. L'Allemagne de l'Ouest existe.
Emmanuel Droit, comment est-ce qu'on peut définir ce modèle économique développé en Allemagne de l'Ouest, ce capitalisme rhénan ?
Alors ce modèle économique, il a un nom et il est lié à un des courants intellectuels qui naît en Europe durant l'entre-deux-guerres et qu'on appelle le néolibéralisme, alors qu'on a tendance un peu à caricaturer aujourd'hui en le présentant comme d'origine américaine ou anglo-saxonne. Ça s'appelle l'économie sociale de marché. Alors l'économie sociale de marché est liée à une source d'inspiration économique incarnée dans le gouvernement allemand par le ministre de l'économie, Ludwig Erhard, incarné par des économistes libéraux de différentes écoles universitaires allemandes, de Francfort ou de Freiburg, qui sont connus sous le nom d'ordo-libéraux. Et en fait, ce qu'on appelle l'ordo-libéralisme, c'était, durant l'entre-deux-guerres, une tentative de réponse intellectuelle à des modèles économiques incarnés par le communisme mais aussi par le fascisme et le nazisme, de tendance plutôt évidemment autoritaire et planificateur. Alors l'économie sociale de marché, ça veut dire que on va permettre au capitalisme de fonctionner à partir donc d'un marché, d'un principe de la libre concurrence non biaisée. L'État est là pour garantir avec un cadre juridique le bon fonctionnement du marché, et en même temps, la deuxième dimension, et c'est pour ça qu'il y a le terme social dans l'expression économie sociale de marché, il faut que l'État puisse corriger les effets négatifs du capitalisme, donc les inégalités sociales, par des politiques de redistribution de ressources sociales qui vont progressivement se mettre en place dans les années 50 et qui vont concerner par exemple les lois sur les retraites, la construction de logements publics. Mais globalement, le principe de base que vous retrouvez jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il est inscrit dans la constitution allemande, c'est l'orthodoxie financière, la stabilité budgétaire, la maîtrise de l'inflation. On a quand même affaire à une société traumatisée par l'hyperinflation de l'époque de la République de Weimar, avec cette terrible année 1923, doublement traumatisée à la fois par l'hyperinflation de 23 et par la crise du capitalisme financier de 29. Donc il faut que le capitalisme il soit en quelque sorte encadré, il faut qu'il soit régulé par un État, et cet État, il doit à la fois organiser les règles de la concurrence pour la faire, pour que cette concurrence soit la plus loyale possible, et en même temps, il doit assurer des corrections des inégalités sociales au sein de cette société post-fasciste.
Et Maria Braun, l'héroïne de Fassbinder, fait partie de ces Allemands qui parviennent à saisir les opportunités économiques, même si ce que montre Fassbinder, et vous avez commencé à l'évoquer, Alban Lefranc, c'est que le pouvoir et l'argent finissent par corrompre.
Oui, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. En fait, du coup, Elle est constamment, en fait, oui, effectivement, elle doit écraser tout ce qu'il y a autour d'elle pour survivre, pour effectivement réaliser son rêve de respectabilité. Mais le film de Fassbinder ne dit pas simplement bon l'argent corrompt, puisque ces personnages d'une certaine manière n'ont pas vraiment le choix non plus. Hein. C'est intéressant parce que il y a une vision plus extrêmement assez brutale du miracle économique allemand qui est formulée par Sebald dans un livre qui s'appelle De la destruction comme élément de l'histoire naturelle, qui est un livre extrêmement violent, où il dit que c'est précisément ces destructions par les anglo-américains qui ont permis le renouveau, parce qu'on avait liquidé une partie de l'appareil industriel, une grande partie des immeubles d'habitation, parce que les sociétés, les populations avaient du coup pris l'habitude de se déplacer contraintes et forcées par les bombardements, qu'on avait l'habitude de travailler avec de la main d'œuvre importée. Donc finalement, il explique que la destruction totale du pays était en fait la première étape du miracle à venir. Donc ce sont des formules de Sebald qui sont assez brutales et je pense aussi peut-être contestables dans le détail. Hein. Mais je pense que Fassbinder se placerait plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire que il montre des êtres pris dans une logique de survie. Il ne les juge pas, qui n'ont pas vraiment le choix. Il montre une époque où les sentiments n'ont aucune place et où ce sont les plus féroces ou les plus capables de mettre à distance leurs sentiments qui vont réussir. Ouais.
Dans l'extrait du mariage de Maria Brand qu'on a entendu tout à l'heure, son patron Karl Oswald évoquait le Reichsmark. Ce Reichsmark, il est remplacé par le Deutschmark en 1948. Qu'est-ce que cela change pour l'économie allemande, Emmanuel Droit?
Alors c'est vraiment, vous avez... Avec le reportage que vous avez diffusé, l'acte de naissance politique de la RFA en mai 1949, donc avec l'acceptation de la Constitution et la mise en place de la Constitution, mais l'autre grand acte de naissance de la RFA, avant même la création de cet État ouest-allemand, c'est bien la réforme monétaire de juin 1948. En effet, avec le soutien américain, une réforme monétaire minutieusement préparée par les Américains, permet donc de tourner la page de cette ancienne monnaie qui n'avait plus de valeur. Et la mise en place du Deutschmark va permettre de mettre fin au marché noir, qui était le mode de fonctionnement des rapports économiques jusqu'en 1948. Et on le voit aussi hein, dans le film de Maria Brown, c'est une économie qui ne s'appuie pas sur la monnaie, parce que personne n'a confiance dans cette monnaie, donc on va utiliser le dollar, la monnaie française, et puis surtout on fait du troc dans cette société post Seconde Guerre mondiale. Et la réforme monétaire, eh bien, en luttant contre l'inflation, en luttant contre le marché noir, à partir d'un taux de change qui est défavorable au départ aux citoyens ouest-allemands, elle va surtout redonner confiance aux Allemands dans cette monnaie. Et ça va enclencher une dynamique vertueuse, c'est-à-dire que les Allemands vont associer pour la première fois stabilité économique et régime démocratique. Alors que si vous prenez la première expérience démocratique allemande de la République de Weimar, elle est essentiellement traversée par des crises politiques, des crises économiques, toutes plus violentes les unes que les autres. Et finalement, cette société nazie se convertit. Et c'est pour ça que l'œuvre de Fassbinder est intéressante, parce que c'est le seul réalisateur ouest-allemand qui met le doigt là-dessus à travers ses figures féminines et les autres. Il nous montre en fait un phénomène de conversion à la démocratie et au capitalisme à partir d'une expérience nazie qui est refoulée. Et la société de l'après-guerre, elle permet à des figures exceptionnelles comme Maria Brown de s'émanciper, parce que si vous prenez cette figure féminine, les femmes dans les années 50 sont marquées en Allemagne de l'Ouest par un phénomène de retraditionnalisation. En fait, elles retournent au foyer sous l'autorité paternelle des époux et donc de des hommes. Donc c'est une figure intéressante, Maria Brown, parce qu'elle est elle s'émancipe dans le cadre de l'économie sociale de marché, tout en étant à la fin victime d'une forme d'entente derrière elle entre les hommes, c'est-à-dire entre son mari entre ses deux maris, Oswald et puis le premier mari qu'elle épouse au moment de la Seconde Guerre mondiale.
L'économie selon Fassbinder, c'est notre sujet aujourd'hui sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie du romancier Alban Lefranc et de l'historien Emmanuel Droit. Alors dans les années 1950, Fassbinder est encore un enfant. On a dit qu'il regardait jusqu'à 3 films par jour. Il a même déclaré plus tard que le cinéma avait été la famille qu'il n'avait jamais eue. Il fait donc du cinéma et aussi du théâtre, puisqu'il va rejoindre la troupe de théâtre munichoise de l'Action Théâtre. Alban Lefranc, un mot sur sa carrière théâtrale?
Oui, alors c'est effectivement, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est pendant cette carrière-là qu'il va rencontrer la plupart de ses futurs acteurs, prendre l'habitude de travailler avec une troupe. C'est assez déterminant pour la suite de sa production parce que il va constamment travailler avec les mêmes acteurs, ce qui explique aussi la rapidité avec laquelle il peut faire des films, puisqu'il a une troupe constamment disponible autour de lui, à qui il doit donner du travail, qui lui est fidèle, qui se forme même en partie sur le tas. Et son cinéma est aussi évidemment très marqué par Brecht. C'est aussi un cinéma, on le remarque, c'est assez flagrant aujourd'hui, très théâtral, hein, qui expose des personnages confrontés à des dilemmes. Donc oui, l'influence du théâtre est omniprésente dans son cinéma. Ouais.
Il est très influencé aussi par le réalisateur Douglas Sirk, qui est parti à Hollywood, qui est un réalisateur allemand le franc.
Oui, alors la rencontre avec le cinéma de Douglas Sirk qui est un peu plus tardive, et il découvre par Sirk la forme du mélodrame qui va devenir absolument déterminante pour son cinéma, avec l'ambition de toucher un public beaucoup plus large. Donc on n'a pas encore eu le temps de le dire, mais Le mariage de Maria Braun est un énorme succès, c'est le premier très grand succès, et je crois que c'est le plus grand succès de Fassbinder. C'est un film qui s'exporte très bien, il prend une stature internationale, c'est ce qui donne par exemple à Anna Chigoula aussi sa stature de star internationale.
Mais c'est 1979, la toute fin de sa vie, donc...
Oui, c'est relativement là. Effectivement, oui, c'est plutôt à la fin de sa vie, effectivement. Alors les premiers mélodrames, ça va être de mémoire, je pense, Le droit du plus fort, Le marchand des quatre saisons. Alors c'est toujours difficile, effectivement, c'est assez amusant parce qu'on est toujours confronté à cette incroyable productivité de Fassbinder. On dit c'est la fin de sa vie, mais en fait il a le temps de refaire 5 ou 6 films derrière, donc tout va très très vite. On est toujours un peu perdu dans la proximité de ces dates. En tout cas, effectivement, le cinéma de Douglas Sirk, c'est la rencontre de cette forme, le mélodrame, qui lui semble donc du coup idéal pour toucher un public plus large. Il veut vraiment sortir de ce qu'il appelle un ghetto cinéphilique et rencontrer vraiment un grand public. Ouais.
Fassbinder qui tourne jusqu'à 3 à 4 films par an. Comment est-ce qu'il fait pour les financer, Albert Lefranc ?
Alors justement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il a une troupe de comédiens vraiment disponibles qui travaillent essentiellement avec lui et de
lui-même
techniciens.
Lui-même joue régulièrement dans ses films.
Lui-même joue régulièrement dans ses films. Sa mère joue dans ses films, hein, quand même. Enfin, tout le monde est vraiment mobilisé. Ce sont des petits budgets, hein, clairement, jusqu'à en tout cas Maria Braun, où là, il change complètement d'échelle. Et c'est après Maria Braun qui pourra réaliser son adaptation de Berlin Alexanderplatz, qui sera aussi le plus gros budget de la télévision allemande en 79-80, je crois. Donc là encore, on est très stupéfait parce que c'est juste quelques mois après Maria Braun. Mais du coup, oui, des petits budgets, les mêmes comédiens.
Recettes de la télévision, en effet.
Des recettes de la télévision, etc. Mmh. Ouais.
Dans le tout dernier film de Fassbinder, Querelle, qui est adapté d'un roman de Jean Genet, on entend Jeanne Moreau chanter.
Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Some do it with a bitter look. Some with a flattering word. The coward does it with a kiss. The brave man with a sword. With a sword. With a sword. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, l'économie selon le réalisateur allemand Fassbinder, c'est notre sujet aujourd'hui. L'historien Emmanuel Droit et le spécialiste du réalisateur allemand Alban Lefranc sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Marie-Claire Oumapadi.
Some love too little, some too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man kills the thing he loves, yet each man does not die. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da.
Après le mariage de Maria Brown, le deuxième volet de la trilogie allemande, c'est Lola, une femme allemande qui sort sur les écrans en 1981, mais qui se déroule à la fin des années 50 à Cobourg, une petite ville de Bavière qui est le land d'origine de Fassbinder. C'est une ville qui, à cette époque, est alors en plein miracle économique. C'est ce que nous montre Fassbinder, Alban Lefranc.
Oui, absolument. Et on a des personnages qui, une fois de plus, donc sont pris dans ces déterminants économiques lourds, quoi. Et le film nous montre le personnage de Lola qui se produit dans un cabaret plutôt un bordel d'ailleurs dans la ville. Et c'est une reprise assez décalée de L'Ange Bleu de Sternberg. Hein. Ou de la même manière, un notable de la ville, un professeur de lycée, dans le film de Sternberg, avec Marlène Dietrich, était séduit et vivait une déchéance absolue en épousant ou en voulant épouser cette prostituée. Là, ce qui est assez différent, et c'est la grande différence aussi, à mon sens, avec Maria Brown, c'est que c'est un film finalement assez optimiste, en fait, assez lumineux, puisque chacun obtient finalement ce qu'il veut. Cette prostituée obtient la respectabilité qu'elle cherchait. Sa propre fille devient la propriétaire du bordel. L'escroc très sympathique dans le film, c'est ça qui est assez amusant. C'est une vraie figure de personne. C'est une figure assez sympathique, et c'est vraiment l'escroc qui construit qui profite de cette reconstruction, qui joue avec les lois.
C'est un pur épicurien.
Un pur épicurien obtient finalement ce qu'il veut lui aussi. Et l'incorruptible qui venait du dehors, qui incarnait le comment dire, une forme de rigueur, comme ça, de droiture, finalement comprend qu'il doit jouer le jeu, qu'il doit accompagner ce mouvement.
Qu'il est pris d'une envie de lutter contre la corruption.
Au départ, oui, oui. Mais finalement, il est pris, effectivement, il se présente d'abord comme un incorruptible, et finalement, il est complètement absorbé par ce jeu-là. C'est assez marrant, parce qu'en y repensant, je trouve que c'est un peu l'inverse de Théorème de Pasolini. C'est vraiment le type qui arrive du dehors dans Théorème, qui finalement, Théorème bouleverse absolument tous les personnages. Là, à l'inverse, ce personnage qui vient du dehors est complètement absorbé par le milieu dans lequel il s'est introduit.
Le fait que le film se déroule à Cobourg, en Bavière, ce n'est pas anodin, Emmanuel Droit ?
Non, c'est pas anodin, parce que vous l'avez rappelé, Fassbinder est originaire de cette région de Bavière, et il faut jamais oublier que chez Fassbinder, le politique est jamais loin, même lorsqu'il n'est pas visible, c'est-à-dire que même dans une société qui apparaît dépolitisée comme la société ouest-allemande. Et on le voit à travers ce film, donc de la trilogie allemande. Finalement, ce qui compte le plus, c'est la recherche du bonheur matériel, c'est l'épanouissement personnel dans une forme de matérialisme occidental. La Bavière et Cobourg, c'est deux hauts lieux du national-socialisme. Le national-socialisme est né en Bavière. Il est sorti de son cocon munichois d'origine du début des années 20, et c'est à Cobourg où les premiers faits d'armes des nazis, notamment à travers des batailles de rue contre les communistes, se sont illustrés. Donc il y a derrière l'invisibilité, puisque on est dans une société de la reconstruction où l'enjeu, c'est la question aussi très très épineuse du logement, dans une ville qui a été un des hauts lieux du national-socialisme. Donc c'est une lecture évidemment au deuxième degré, mais chez Fassbinder, je vous l'ai dit, le politique, il est jamais très loin, en fait.
Oui, puis la Bavière, c'est aussi un land qui était très agricole jusqu'à l'après-guerre et qui a vraiment beaucoup profité du miracle économique ouest-allemand, Emmanuel Droit.
Oui, qui évidemment a connu une forme d'accélération de la modernisation de son appareil socio-économique ou de sa structure socio-économique et ce qui nous apparaît aujourd'hui comme le fer de lance de la croissance économique allemande avec son appareil industriel, que ce soit automobile ou technologique. Alors la Seconde Guerre mondiale avait déjà accéléré mis en place les choses, mais c'est vrai que le miracle économique allemand, c'est aussi le miracle économique de la Bavière.
Allez, on écoute un extrait de Lola, une femme allemande, dans lequel on entend l'urbaniste von Bohm, ce personnage très rigoureux sur le plan moral que vous avez évoqué, Alban Lefranc, lors d'une rencontre avec un journaliste. À qui cela profite? Vous n'avez qu'à regarder les noms sur les contrats et vous aurez votre réponse. Ce sont tous les citoyens respectés de cette ville. Citoyens respectés? L'élite, la classe dirigeante. J'ai consulté un expert en théorie sociale avant de venir vous voir, mais la question des buts visés demeure. Quel but la classe dominante pourrait-elle poursuivre? L'enrichissement. C'est la raison même de ces contrats. Mais au détriment de qui? Je vais vous le dire, au détriment des pauvres. Ce sans-droit, les exploiter. Mais ils en bénéficient aussi. Si une personne s'enrichit, ceux autour s'enrichissent. Enfin, pas exactement, mais ils ne sont pas aussi pauvres qu'avant. C'est pour ça que nous appelons notre économie sociale de marché, parce qu'il y a quelque chose à prendre pour tous. Ce sont les règles du jeu, vous comprenez? Oui, je comprends, les règles du jeu. C'est ce que j'ai dit à mon conseiller, que les règles du jeu doivent être changées. Voilà, on parlait de cette économie sociale de marché hein, qui est ici évoquée par le journaliste que rencontre von Bohm, cette économie sociale, ce modèle capitaliste qui se met en place grâce au chancelier Adenauer et son ministre de l'économie Ludwig Erhard que vous citiez tout à l'heure, Emmanuel Droit. Il faut peut-être dire aussi que le miracle économique allemand repose également sur la communauté européenne naissante, Emmanuel Droit.
Oui, il y a deux moteurs en fait qui expliquent le miracle économique allemand, outre les facteurs endogènes liés à l'appareil industriel et aux ressources humaines. On a évoqué dans un premier temps l'aide américaine, c'est-à-dire que sans les Américains, évidemment, le décollage économique aurait été impossible. Et puis, dans le contexte des années 50, à la fois dans une logique d'intégration politique, de sortie du ghetto international, et puis d'intérêt sidérurgique, la construction européenne qui est d'abord une construction économique autour du charbon et de l'acier constitue un puissant facteur de développement. Alors pour les Français, c'était une manière de contrôler évidemment la reconstruction industrielle de l'Allemagne par la mise en commun de la production charbonnière et d'acier par une autorité indépendante présidée au départ par Jean Monnet, et pour les Allemands évidemment l'objectif, c'était de nouveau d'être, on dirait en allemand, zalonfähig, acceptable sur le plan ouest européen avec ses voisins. Et puis le gouvernement présidé par Adenauer avait comme objectif moins la réunification dans un premier temps que l'ancrage à l'ouest de cet État ouest allemand. Donc la politique européenne, elle servait ses intérêts politiques et puis les intérêts économiques des grands industriels de la sidérurgie et du charbonnage.
Après Maria Braun, Lola, c'est une autre figure de femme qui essaye de s'en sortir. D'une façon générale, dans l'œuvre de Fassbinder, les femmes occupent une place très importante, Alban Lefranc.
Oui, absolument. Alors dans beaucoup de ces films, elles sont aussi victimes hein, de l'ordre patriarcal, de la violence sociale autour d'elles. Mais c'est vrai que c'est un cinéma qui va s'intéresser énormément aux laissés pour compte ou aux marginaux en fait de la société. On n'en a pas parlé jusque là, mais son cinéma s'intéresse aussi beaucoup pour des personnages de travailleurs immigrés, des Gastarbeiter, ce qui je pense est complètement inédit dans le cinéma dans le cinéma allemand de l'époque, voire européen, puisque dans un film qui s'appelle Tous les autres s'appellent Ali, le personnage principal, absolument solaire, est un personnage, joue un Turc, un travailleur immigré en Allemagne. Les femmes, mais aussi les femmes âgées. Donc le double scandale, la double transgression dans Tous les autres s'appellent Ali, c'est que il met au premier plan les deux personnages principaux absolument magnifiques, c'est un travailleur turc et une femme âgée, et qui en plus sont en couple. Donc c'est la transgression absolue, quoi. La représentation comme ça d'une sexualité, de la sexualité de cette vieille femme, on est quand même dans les années 70, vous imaginez, c'est complètement ahurissant. Donc voilà, effectivement, c'est un cinéma qui va aller, à la fois, comme on le disait tout à l'heure, montrer que dans sa quête de respectabilité, l'Allemagne met sous le tapis tout ce passé nazi qui pourtant est omniprésent dans l'intimité des gens, et qui aussi pousse vers le dehors ou ignore toutes les formes de marginalité.
Et dans beaucoup de films de Fassbinder, il y a cet intérêt à la fois pour les marges et pour une bourgeoisie plus ou moins critiquée, dénoncée, cette mentalité bourgeoise que dénonce régulièrement Fassbinder. On la voit aussi critiquée dans Le droit du plus fort, qui est un film de 1975, mm-hmm. dans lequel les personnages principaux sont tous homosexuels, mais c'est pas un sujet du film.
Voilà, ça c'est une très grande force, je trouve, de ce film. Et aussi, c'est un film qui est critiquable de plein de points de vue. Hein. Il faut imaginer, donc voilà, on est dans un univers où l'homosexualité est une donnée de base, n'est pas du tout, il n'y a pas d'enjeu de coming out, il n'y a pas de conflit autour de l'homosexualité, qui est encore un délit hein, en Allemagne à cette époque. Donc là, c'est un premier geste transgressif. Et la deuxième transgression, c'est que la plupart de ces homosexuels sont absolument ignobles. Donc il a aussi été énormément attaqué par la communauté homosexuelle de l'époque pour ça. Ensuite, c'est un film particulièrement pervers, comme c'est l'être Fassbinder, qui oblige le spectateur à se poser des questions, à réagir, c'est que la victime est particulièrement exaspérante, hein, il faut quand même bien le dire. C'est-à-dire que le rôle principal est joué par Fassbinder lui-même, autre degré de perversité, si je puis dire.
Il s'appelle Fox, c'est un petit forain qui gagne au loto.
Voilà, et il s'appelle aussi Franz Bibokov, qui est un hommage à, on n'en a pas beaucoup parlé, mais au livre de Dublin, Berlin Alexanderplatz, qui est omniprésent dans l'œuvre de Fassbinder. Bref, et ce personnage va s'introduire un peu par effraction dans un milieu bourgeois, il gagne à la loterie.
Parce qu'il tombe amoureux du fils d'un industriel.
Voilà, alors il gagne d'abord à la loterie, enfin il couche d'abord avec ce fils d'industriel simplement pour avoir un billet, en fait, pour jouer à la loterie. On parle pas trop de sentiments. Ensuite, il gagne 1 million à la loterie. Et là, il devient brusquement très intéressant pour ce milieu bourgeois qui va l'exploiter jusqu'à l'os. Mais ce qui est intéressant, c'est que il s'enferme lui-même. Il répète les propres erreurs. Il y a quelque chose d'extrêmement pervers, comme on peut voir ça dans certains films de Buñuel, hein, chez Fassbinder, à montrer un personnage qui s'enfonce sous nos yeux et qu'on a envie constamment de remuer, de réveiller en disant mais arrête, c'est pas possible, tu vas pas faire ça à nouveau, et qui est dans une logique de mort, une pulsion de mort, puisque il finit par se suicider. Donc c'est là que le film, enfin il y a toujours constamment chez Fassbinder on est constamment pris dans des mécanismes assez complexes ou plutôt des mécanismes qui nous obligent à réfléchir à la position des personnages. Et il y a un point que j'ai pas souligné tout à l'heure mais qui est très fondamental, qu'on oublie souvent, c'est que comme il utilise constamment les mêmes acteurs se retrouvent tantôt bourreaux, tantôt victimes d'un film à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une véritable l'ensemble de ses films, il disait je veux construire une maison avec mes films. C'est intéressant quand on parle de reconstruction. Je veux construire une maison avec mes films, et tous ces personnages en fait ne cessent pas de se répondre. Le tel couple, par exemple le couple de communistes dans Maman Custos s'en va au ciel, qui sont des grands bourgeois communistes, donc c'est absolument génial, est un couple sadomaso dans un film précédent. Donc il s'amuse constamment. Fassbinder, dont on sait qu'il est un tyran absolu, tout le monde le sait, ses films l'exposent à certains moments, joue le rôle du pauvre petit homosexuel massacré par les bourgeois. Donc c'est ça qui est amusant, c'est qu'il n'y a jamais de... Il n'y a pas un index dénonciateur caricatural. C'est toujours assez dialectique,
Fassbinder, qui était un bourreau de travail. On a parlé du fait qu'il était extrêmement prolifique. Et voilà ce qu'il écrit justement à propos du travail. Le travail est peut-être le seul thème qui existe vraiment. De quoi d'autre peut-on parler ? La plupart des gens travaillent tous les jours pendant 50 ans et quand ils rentrent chez eux, ils continuent de travailler. Les personnages de mes films sont des êtres brisés parce qu'ils n'ont pas de travail alors qu'ils vivent dans un monde où on doit travailler. C'est ça qui les détruit. On vit dans une société où il faut travailler pour donner un sens à sa vie. Et la plupart de mes personnages ne peuvent pas supporter le travail qu'ils font. Voilà pourquoi dans leur vie, ils n'ont rien à quoi se raccrocher. C'est pour ça qu'ils sombrent. Bien sûr que je crois que le travail détermine le destin des hommes. J'ai considéré la plupart de mes films comme très politiques, parce qu'ils parlent de mécanismes comme la pseudo-émancipation, qu'ils les dénoncent et qu'ils travaillent contre eux. Je ne suis pas du tout pour faire des films politiques en brandissant un drapeau rouge. Et je ne trouve pas que les films de Godard soient politiques, car ils n'ont aucun effet, ils n'ont aucune répercussion, car ils n'atteignent que très peu de gens. La manière dont ils sont faits les rend inaccessibles au plus grand nombre. Faire des films politiques, c'est faire des films accessibles au plus grand nombre. Sinon, ce n'est pas politique, ou alors dans le mauvais sens du terme. C'était un extrait d'un entretien réalisé avec Fassbinder et retranscrit dans un livre intitulé Fassbinder par lui-même, entretien 1969-1972, paru chez G3J Éditeur. Que vous inspirent ces propos, Alban Lefranc ?
Moi, je trouve ça très drôle parce qu'il est d'une mauvaise foi totale. Et il admire évidemment infiniment Godard. Il est en rivalité totale, d'après ce dont je me souviens. Hein. Il est en rivalité totale et c'est assez logique avec le Godard des années 60, qui lui-même est extrêmement prolifique. Quand il dit faire des films accessibles, ça, il le décide assez tard parce que les premiers films de Fassbinder sont beaucoup plus arides. Passionnants hein, aussi, hein, sans aucun doute. Donc, en fait, ce qui est toujours passionnant avec lui, c'est que dans un aussi petit laps de temps, il a fait autant de choses et autant varié. Donc du coup, bon, c'est une position qu'il a à un moment donné, il en a eu d'autres à d'autres moments. Après, il dit des choses passionnantes, effectivement, le travail est omniprésent dans ses films. Là, en vous entendant le lire, je pensais à 8 heures ne font pas un jour, la série, qui est aussi, il faut quand même imaginer ça, dans les années 70, la télévision allemande qui finance une longue série qui montre le monde ouvrier, qui réfléchit aux moyens de faire la grève, et dans un mode plutôt utopique, où ça réussit plutôt. Tout le monde se met ensemble pour essayer de réfléchir comment on peut lutter contre le patron, etc. Tout ça dans le système allemand. Donc oui, il a aussi constamment une force de proposition comme ça qui le rend très difficile, et moi c'est ce qui me passionne chez lui, très difficile à situer, à arrêter. Il va tellement vite.
Il y a une primauté hein, accordée au travail qui semble caractériser l'Allemagne des années 60 et 70, mais ça commence à se craqueler justement à la fin des années 70. Emmanuel Droit, ce pacte entre le gouvernement et les classes populaires.
Bon, on va dire que ce modèle de l'économie sociale de marché, en effet, il traverse ce que on a coutume d'appeler en France les 30 glorieuses. Mais l'Allemagne de l'Ouest, comme la France du début des années 70, à partir du moment où les puissances occidentales sur le plan économique vont être confrontées d'abord au premier choc pétrolier de 73, puis au second choc pétrolier de 79, ce double choc pétrolier, dans un climat de stagflation, va confronter en fait les responsables politiques à une remise en cause de ce modèle de capitalisme régulé ou de capitalisme contrôlé plus ou moins par l'État. C'est-à-dire concrètement que ce qui apparaissait évidemment comme moderne dans les années 50-60 ne l'est plus à la fin des années 70. Vous avez parallèlement, et en effet, l'origine anglo-saxonne est bien déterminée, vous avez des courants néolibéraux anglo-saxons qui considèrent que les modèles keynésiens ou les modèles de capitalisme régulés sont en fait des freins à l'innovation, des freins à la libre entreprise, des freins à l'épanouissement individuel. Et il faut jamais oublier que la décennie 70, sur le plan sociétal, c'est l'entrée dans ce qu'on a pu appeler la société post-industrielle, c'est-à-dire post-collective, où l'individu et son épanouissement personnel sont au cœur, finalement, des enjeux. Et bien, tout cela fragilise le modèle économique allemand. Alors, progressivement, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, mais il y aura un virage néolibéral, progressif. Helmut Kohl ira pas jusqu'au bout de ce tournant néolibéral qui sera finalement définitivement pris par le gouvernement du chancelier social-démocrate Schröder au début des années 2000. Mais c'est vrai qu'à la fin des années 70, la croissance économique allemande portée par les industries de la seconde révolution industrielle, c'est-à-dire la sidérurgie, la métallurgie, et puis s'appuyant sur les ressources charbonnières, ce modèle-là n'est plus productif, n'est plus concurrentiel. On est déjà dans une phase dite de désindustrialisation, alors beaucoup moins violente qu'en France, hein, puisque l'Allemagne a conservé jusqu'à aujourd'hui un certain potentiel industriel. Il faut jamais oublier que la puissance économique allemande, elle repose sur une capacité à exporter et donc à faire de la plus-value sur le secteur, par exemple, des machines-outils, le secteur de l'automobile. Et en dépit de ce changement structurel et du passage vers la tertiarisation de l'économie et la financiarisation du capitalisme, l'Allemagne garde quand même un potentiel industriel certain, en tout cas beaucoup plus important qu'en France. N'empêche que, en effet, ce modèle de l'économie sociale de marché, il commence à être remis en cause.
Il commence à être remis en cause. Et puis, les années 70, c'est évidemment une période de violence politique avec la fraction armée rouge. C'est un climat particulier, évidemment, qui est instauré par tous ces attentats politiques qui apparaît dans les films de Fassbinder, Alban Lefranc.
Ah oui, ça c'est assez passionnant parce que, à mon sens, Fassbinder a fait le film le plus sidérant sur ces événements de la fraction armée rouge qui serait peut-être un peu long à exposer là, mais bon, très rapidement, c'est on en parle deux minutes ou c'est...
En quelques mots, oui.
Oui, c'est un groupuscule d'extrême gauche qui par une série d'attentats entend rendre la population consciente des mécanismes d'oppression et déclencher une révolution générale. Bon, j'y vais vraiment très très vite. Hein,
et notamment contre les industriels qui ont un passé nazi. Et c'est dans ce cas que Hans-Martin Schleyer est assassiné. Voilà. En tout, il y a eu 34 personnes qui ont été assassinées. Par la bande à Bader.
Voilà. Et donc il souligne tout à fait justement le grand nombre de nazis encore en poste ou d'ex-nazis, comme l'avait fait Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem, hein, qui désignait nommément les nazis encore en place, en disant aux Allemands, vous êtes bien mignons quand vous pleurez pour Anne Frank, mais occupez-vous, alors que vous n'avez rien fait quand vous étiez des enfants, occupez-vous des nazis en place aujourd'hui. Bon. Cette situation de violence connaît un climax en 77, avec l'enlèvement de Hans-Martin Schleyer, un détournement d'avion, une intervention de l'équivalent du GIGN allemand hors de leur juridiction à Mogadiscio, donc en Somalie, donc c'est complètement délirant politiquement à tout niveau. Et un climat de paranoïa totale s'installe dans le pays, il y a toute une série de lois liberticides, etc. On a vraiment peur que cette jeune démocratie allemande prenne un virage fasciste. Et là, Fassbinder fait un film complètement sidérant qui s'appelle Allemagne en automne. Enfin, c'est un film réalisé par plusieurs cinéastes, dont Fassbinder. Et l'intervention de Fassbinder, le film de Fassbinder fait à peine 30 minutes de mémoire.
Et lui, il joue son propre rôle, c'est un réalisateur.
Alors là aussi, on est dans la perversion de Fassbinder, parce qu'il joue son propre rôle, oui et non, parce qu'en même temps, bon, on se doute bien que c'est pas un documentaire, on le voit, on imagine bien qu'il y a un minimum de mise en scène, puisqu'on le voit empoigner son compagnon de l'époque, son amant de l'époque, Armin Meyer, qui est issu de Lebensborn, qui est issu vraiment des fabriques de bébés nazis. Donc l'histoire n'arrête pas de le rattraper par le mollet, quoi. Et on le voit s'empoigner avec Armin Meyer, on le voit s'engueuler très violemment avec sa mère. C'est ce que vous vouliez.
Non, allez-y, je vous en prie.
Et du coup, ce que je trouve passionnant dans ce film, c'est que plutôt que d'avoir un surplomb sur ces événements-là, il se montre en train d'être traversé par leur violence. Et à mon sens, c'est filmiquement une des choses les plus folles qui a été faite sur ces événements.
Et on aurait pu en parler bien plus longtemps, malheureusement. L'horloge nous rattrape. Un grand merci à Emmanuel Droit et Alban Lefranc merci. D'avoir été avec nous tout au long de cette émission. On mettra les références de votre ouvrage Fassbinder, la mort en fanfare aux éditions Rivage sur la page de l'émission. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver le pourquoi du comment, votre chronique du vendredi qui est présentée par la sociologue Dominique Méda.
Le manque de reconnaissance est-il dû au management ? Les difficultés de recrutement s'expliquent en partie par un manque d'attractivité des métiers. Cette dernière expression concerne l'insuffisance des salaires et les mauvaises conditions de travail, mais c'est aussi très souvent le manque de reconnaissance qui est incriminé. De quoi s'agit-il ? Dans la plupart des enquêtes qui s'intéressent aux raisons pour lesquelles il existe aujourd'hui un fort malaise au travail, il est question du manque de reconnaissance. Déjà en 1988, lors de la longue grève des infirmières, la question de la reconnaissance était centrale. Ce que nous réclamons, nous, c'est un statut, le droit et la reconnaissance de nos compétences, déclarait alors la présidente de la coordination des infirmières. Le premier ministre de l'époque, Michel Rocard, avait repris l'expression à son compte. Nombreux sont les fonctionnaires, je le sais aussi, pour les enseignants, mais ce ne sont pas les seuls, qui considèrent que leur métier n'est pas reconnu par la société, avait-il dit. Le ministre de la Santé, Claude Évin, avait ajouté « À côté des revendications à caractère financier, le mouvement a manifesté un désir de reconnaissance, une demande d'identité ». Aujourd'hui aussi, les infirmières qui quittent leur poste réclament de la reconnaissance, comme les enseignants, les chercheurs, les agriculteurs et toutes celles et ceux qui se considèrent maltraités dans leur travail. En 2014, nous avons engagé, mes collègues et moi-même, une enquête auprès d'environ 200 personnes dans une douzaine d'entreprises différentes, de toutes tailles, pour tenter de comprendre ce que recouvrait cette demande de reconnaissance. Nous en avons rendu compte dans un ouvrage intitulé « Travailler au XXIe siècle, des salariés en quête de reconnaissance ». Nous avons pu repérer plusieurs types de configurations à l'origine du déni de reconnaissance. Les unes concernent la nature de l'activité et la manière dont on permet aux individus d'exercer celle-ci. Lorsque l'activité est entravée, qu'elle ne peut pas être menée du début à la fin et que de ce fait elle perd son sens, ou encore lorsqu'il n'est pas possible d'isoler et de rendre visible la contribution de chacun, on est dans un cas qui peut entraîner une forme de déni de reconnaissance. La parcellisation des activités qui peut sembler rationnelle du point de vue de l'efficacité, mais qui fait perdre son sens au travail, constitue aussi un facteur fréquent. L'intensification du travail qui en résulte, surtout lorsque les effectifs ne suivent pas, entraîne le sentiment de bâcler son travail. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital. Une autre configuration fréquente est l'absence de rapport entre la contribution apportée par le travail et la rétribution obtenue. C'est alors le sentiment de justice qui est bafoué. C'est le cas lorsque l'effort n'est pas vu ou récompensé à sa mesure ou lorsque la distribution des rétributions entre les collègues est considérée comme injuste. Le plus souvent, ces dénis de reconnaissance prennent leur origine dans l'incapacité des managers à connaître intimement le contenu des tâches à effectuer et les résistances du réel. Comment voulez-vous que mon manager me reconnaisse puisqu'il ne connaît pas les contraintes de mon travail ? Nous avait ainsi expliqué une travailleuse d'un centre d'appel. Dans plusieurs de nos entretiens, les reproches étaient adressés directement au management. Un management fondé sur le diplôme et méconnaissant complètement la réalité du travail exercé, incapable donc de fixer correctement les objectifs et les rétributions. Lorsque les contraintes sont trop dures, il existe plusieurs solutions. Albert Hirschman a proposé la fameuse trilogie « Exit, Voice, Loyalty ». Partir, prendre la parole et donner de la voix, ou rester. Le sociologue Guy Bajoie a critiqué cette trilogie et expliqué « Hirschman considère comme fidèles tous ceux qui ne désertent pas. Tout ce qui est ni exit ni voice relève nécessairement de la loyalty ». Il propose d'ajouter une quatrième option, l'apathie. On reste en poste, mais on s'investit juste ce qu'il faut dans son travail. Ce que l'on appelle aujourd'hui le quiet quitting est donc tout sauf nouveau.
Just in time, you found me just in time. Before you came, things were running low. Oh, I was lost, the losing dice were tossed, my bridges all. Then I met you, and now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. Love came just in time. You found me just in time. You changed my lonely life. That happy day. That happy day.
C'est la fin d'Entendez-vous les cours. On se quitte avec Just in Time, le nouveau titre de la chanteuse américaine Ricky Lee Jones. La semaine prochaine, quand puissance économique rime avec construction monumentale, nous retracerons l'histoire des pyramides de Gizeh, de la Grande Muraille de Chine et du Machu Picchu. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous les cours.